peut dire merde, arrêtez peut-être, c'est toujours sympa de dire merde. Hein.
Les tests osseux sont d'un autre âge. Ils te disent merde, mon cartilage. Les tests
osseux
sont d'un
autre âge.
Ils te disent
merde,
mon cartilage.
Bonjour, comme tous les mercredis, vous êtes à l'écoute de RESF, hein, le réseau Éducation sans frontières, sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, et www.rfpp.net pour nous suivre en streaming partout dans le monde, pourvu d'être disposé d'une connexion suffisamment rapide, ce qui n'est pas garanti partout. Et cette émission sera rediffusée mardi matin et très bientôt téléchargeable sur le site resf.info à la rubrique radio. Alors on peut y aller soit en faisant resf.info, on se balade sur le site, on en profite pour glaner des informations par-ci par-là et on va à la rubrique pétition avant de passer à la rubrique radio, hein, qui est qu'on trouvera dans la colonne un petit peu plus bas sur la gauche, où on fait directement resf.info/radio et on y est. Et donc cette émission sera, oui, je viens de le dire, hein, rediffusée mardi matin. Et bien sûr, vous pouvez aussi nous envoyer un petit mot, un petit courrier pour nous dire tout le bien ou tout le mal que vous pensez de cette émission. Nous envoyer, nous communiquer des infos, nous demander de traiter tel ou tel sujet. Et ça, on peut le faire soit classiquement par la poste, ne pas oublier de mettre un timbre sur l'enveloppe ou la carte postale, et c'est émission RESF, Radio Fréquence Paris Pluriel, 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris, et éventuellement même glisser un petit chèque à l'ordre Association Paris, hein, P-A-R-I-S, c'est pas mal. Et sinon, donc, vous pouvez nous envoyer un mail à resf.fpp@gmail.com. Donc aujourd'hui, eh bien, c'est un petit peu dans le cadre de la semaine anticoloniale, de la sortie d'un livre passionnant qui s'appelle « Urgence antiraciste pour une démocratie inclusive ». Donc nous sommes en compagnie de Farid Benaï. Bonjour Farid.
Bonjour.
Alors tu es de l'équipe d'animation du réseau Reprenons l'initiative.
C'est ça.
Voilà, et on devrait, donc Evelyne Perrin, qui est sociologue et membre de l'association 100% et aussi du conseil scientifique d'attaque France, devrait nous rejoindre tout à l'heure, ainsi que Gilles Monceron, qui est historien et qui se présentera lui-même de façon beaucoup plus détaillée, de même que Evelyne. Alors, bon, comme on a pas mal de gens très intéressants qui auront beaucoup de choses à dire, hein, dans cette émission, eh bien, on a fait un tout petit journal. Et donc, on va commencer, donc, pour l'information générale, hein, en Gironde. En Gironde, il y a 36 mineurs isolés étrangers ou mineurs non accompagnés qui sont au centre d'accueil domaine départemental Gérard Lagorre à Ostense, et les Beauves sont en grève de la faim depuis lundi 5 mars. D'ailleurs, il y a deux enfants qui ont été hospitalisés. Hier, il y avait deux enfants qui étaient hospitalisés. Et au moins quatre d'entre eux, toujours hier, hein, quatre d'entre eux, d'après leurs camarades, sont tombés dans les pommes et ont été relevés par leurs copains. Donc, c'est très, très dur. Et il s'agit de jeunes d'autres départements qui sont reconnus mineurs, eux. Donc là, il n'y a pas de problème pour l'instant à ce niveau-là. Et qui ont été affectés en vertu de ce dispositif, peut-être que tu le connais un petit peu mieux que moi, que tu pourrais nous en parler, de ce dispositif qui fait que les mineurs d'un département peuvent être amenés dans un autre département avec un système de péréquation. Et donc ce sont des mineurs qui ont été affectés donc, en Gironde. Alors ils ont d'abord été placés en hôtel, hein, avec des, comme on dit, des bons kebabs. Ils avaient des bons et ils pouvaient acheter un kebab pour se nourrir. Et suite à la mobilisation et la constitution d'un collectif de plusieurs associations, dont RESF, un collectif d'avocats, et donc ils ont été placés dans ce centre, mais à peu près sans le moindre suivi éducatif, sans école, si ce n'est apparemment, et je le dis sous toute réserve, une heure de cours par semaine délivrée par des bénévoles, etc. Or, c'est pas du tout ce qu'ils attendent. Et donc leur revendication est d'être traités comme des mineurs, de pouvoir rencontrer un juge qui va ordonner le suivi éducatif, et donc de pouvoir aller à l'école. Et on donnera plus de nouvelles la semaine prochaine. Et Evelyne Perrin donc, vient de nous rejoindre. Donc Evelyne, je te laisse t'installer Et puis, voilà, hein, donc, et aussi quelques nouvelles de Calais. Donc, si c'était pas dramatique, ce serait à se tordre de rire. Mais ça n'est pas du tout à se tordre de rire. Donc, la maire de Calais, Natacha Bouchard, a pris jeudi dernier un arrêté pour interdire, je cite son communiqué, les occupations abusives, prolongées et répétées dans la zone industrielle des Dunes, et surtout pour empêcher les associations de distribuer les repas aux migrants. La zone des Dunes, c'était grosso modo donc une zone avec pas mal de friches industrielles, et là où était installé le bidonville d'État, que certains appelaient la jungle. Alors donc lundi 6, le périmètre défini, hein, puisqu'au départ c'était seulement la zone des Dunes, a été élargi et englobe désormais le bois du Brûle et la place d'Armes. Donc le bois du Brûle parce que les réfugiés s'y abritent, et surtout les associations s'y sont repliées pour les distributions de repas. Ensuite, la place d'Armes, hein, la place d'Armes donc, qui est au cœur de la ville, parce que, et comme nous le racontait la semaine dernière, de Terre d'Errance, Noranfonte, hein, depuis 2 semaines, les samedis matins, suite aux problèmes de douche et de l'interdiction, les arrestations qu'il y avait avant, après les douches, au secours catholique, eh bien, donc depuis 2 semaines, le samedi matin, les militants se retrouvent à la place d'Armes en peignoir, pour prendre leur douche sur les jets d'eau, parce que c'est des jets d'eau qui montent, et on fait d'ailleurs la toilette à Charles et Yvonne de Gaulle, puisque leur statue est là. Sauf que, dixit le communiqué de Madame Bouchard, donc députée maire de Calais, donc, qui dit qu'elle n'accepte pas que la population calaisienne soit de nouveau contrainte à subir ces troubles à l'ordre public, et parce que toutes les dispositions nécessaires doivent être prises pour empêcher la création de nouveaux points de fixation à Calais. Alors, je continue ce communiqué. Au moment où nous mettons en œuvre une stratégie marketing et touristique visant à redorer l'image de notre ville et à lui rendre son attractivité, nous ne pouvons tolérer ces agissements. Alors, pour éviter de contrarier cette dame, et pour aller dans son sens, hein, une innovation a été lancée par les militants qui allaient prendre leur douche place d'Armes, et ils ont donc lancé un appel à se rendre au marché à 11h30 en peignoir. Donc si vous allez à Calais, ou même après tout ça peut être suffisamment attractif, se rendre au marché à Calais en peignoir, donc samedi matin à 11h30, puis on se rendra, non pas à la place d'Armes, puisque c'est interdit, mais à la mairie. Et on lavera les petits bourgeois de Calais qui sont là. On va bien leur donner leur douche. Alors voilà, bonjour Evelyne. Donc tu t'es installée.
Bonjour.
Voilà. Alors, tu pars à 3 cm du micro, tout à fait en face. Donc je te présentais comme... Mais peut-être tu vas te présenter mieux que moi.
Non, mais merci beaucoup de l'invitation. Je suis ravie de retrouver Farid Benaï, que je connais depuis fort longtemps. Et donc, on est content que ce livre sorte, parce qu'un livre contre les différentes formes de racisme, je pense que c'est assez d'actualité. Hein,
ouais.
Étant donné tous les propos tenus au plus haut niveau de l'État contre les Roms, les musulmans, les ci, les ça, tous ces gens-là qui profitent de nous diviser entre nous pour garder leur poste bien au chaud, eh bien, c'est vrai que nous sommes tous concernés, mais nous sommes nombreux à nous battre. Et on va se retrouver certainement des centaines et des milliers le 19 mars, dimanche 19 mars, parce que c'est une marche pour la justice et la dignité, et ça nous concerne tous.
Voilà, et ça on va tout de suite en parler, mais on finit quand même très rapidement notre petit journal. Donc, quelque chose qui se passe à Créteil, hein, c'est l'école Albert Camus. L'Albert Camus de Créteil, on se mobilise donc pour Badrôle Makongo Ntinou, qui est papa, et donc pour sa fille Hélène, hein, qui sont arrivées en 2012 de République démocratique du Congo. Et donc, monsieur Ntinou est venu pour mettre Hélène, hein, qui avait à l'époque 5 ans, à l'abri de très grosses tensions. Alors, donc, ce jeune père célibataire a immédiatement scolarisé Hélène et a déposé une demande d'asile. Et il a été débouté très vite. Et donc, il a demandé une admission exceptionnelle au séjour en 2015. Hein. Il était là quand même depuis 2012, ça faisait 3 ans. Et il s'est vu opposer sans délai une OQTF. Il s'est vu opposer, pardon. un refus, hein, mais sans OQTF, hein, en raison de la présence, enfin, un refus en raison d'un temps de présence insuffisant en France, mais sans OQTF parce qu'on tenait compte du fait qu'il était papa d'une petite fille qui était à l'école. Et, bon. Et donc, ce monsieur est courageux et patient, hein, qui est arrivé à 5 ans de présence en France, hein, 2012-2017. Allait de nouveau déposer cette année un nouveau dossier, mais suite à un contrôle d'identité, donc lundi dernier, le 6 mars, hein, à la gare du Nord, il a été arrêté et gardé toute la journée. Et il n'a pu sortir de sa garde à vue qu'en faisant valoir que le fait qu'Hélène allait se retrouver seule à la sortie de l'école. Donc au terme de cette épreuve angoissante, monsieur Ntidou s'est vu délivrer une obligation de quitter le territoire français par la préfecture de Calais, par la préfecture de Paris. Et donc, on peut trouver une pétition pour soutenir ce monsieur à la rubrique pétition dont je parlais tout à l'heure. Et autre petite actualité RESFienne, hein, aux Ulysses, en Essonne, c'est Brahima Tunkara qui vit en France depuis 15 ans, donc depuis 2001, avec son épouse, hein, Kumba Conté, qui l'a rejoint en 2010, et leurs deux enfants, Boubou qui a 2 ans et Nakusa qui a 3 ans et demi, qui sont tous les deux scolarisés au maternel, ils attendent un troisième enfant. Et donc les transports, c'est très dangereux, surtout quand on n'a pas ses papiers, parce que Brahima Tunkara a été arrêté lors d'un contrôle dans les transports en commun le 24 février dernier, donc ça fait 2 semaines. Donc il a été enfermé au centre de rétention de Palaiseau. Le 3 mars, il a été conduit une première fois à Roissy pour être expulsé par vol pour Bamako et il a refusé d'embarquer. En général, la première présentation à l'avion, on peut refuser d'embarquer sans trop de problèmes. Mais les policiers ne lui ont pas caché que ce serait beaucoup plus compliqué à la deuxième tentative. Et alors donc, comme il faut absolument empêcher que la famille soit démembrée, que le papa parte, hein, qu'une jeune femme soit privée de son mari, donc on pourra trouver plus d'informations pour envoyer des fax, des mails à qui de droit au ministère et à la préfecture. Et ça, c'est en page d'accueil du site RESF. Et puis, donc, hein, vous pouvez aller voir la rubrique pétition où il y a plein d'informations. Et puis, on va tout de suite parler de urgence.
Faire peut-être une remarque, oui, en tout cas un commentaire sur ce qui vient d'être dit et qui illustre d'une certaine façon aussi cet état de crise sur l'antiracisme. Et nous viendrons à parler du livre, mais c'est vrai que ce qui se passe en termes de non-respect du droit des enfants mineurs est catastrophique, est une honte. Mm-hmm. Je rappelle quand même que la France est en contradiction totale avec les chartes qu'elle a signée, notamment la Charte internationale du droit des enfants, qu'elle a plusieurs fois été rappelée à l'ordre, sur notamment l'incarcération des mineurs, sur le fait qu'elle laisse aujourd'hui de plus en plus de mineurs et d'enfants, y compris en bas âge, à la rue. Et c'est vraiment indigne. C'est une honte. Et les gouvernements successifs font mènent la même politique. Souvent avec, y compris, la complicité des collectivités territoriales. Parce que c'est vrai qu'il appartient aux conseils départementaux de prendre en charge cette question du droit des enfants. Mmh. Ah, et donc on voit bien qu'à tous les échelons, on assiste à quelque chose de systémique qui va à l'encontre non seulement des droits humains, mais du droit des enfants. Et il ne s'agit pas que, en plus, des enfants, entre guillemets, étrangers, mineurs, etc. Parce que le pendant de cette politique que nous nommons de racialisation, c'est que les droits et les services publics pour tous les enfants sur le territoire sont en recul. Que ce soit sur la question de l'éducation, que ce soit sur la question du logement, que ce soit sur la question de la santé. Donc ces questions-là, c'est vrai que je ne sais pas, elles devraient embraser tout le monde, parce que ça nous concerne tous, et pas simplement, comme on voudrait nous le faire croire, en tentant de monter, de trouver des boucs émissaires et de faire de la surenchère raciste, et de la maltraitance, parce qu'il s'agit bien évidemment de maltraitance sur des enfants, une politique qui n'infléchit pas depuis déjà pas mal de décennies, mais bien au contraire. Elle atteint des seuils aujourd'hui, mais comme hier, mais inacceptables, et on sait que si, ça fera peut-être l'objet d'une deuxième intervention, mais il n'y a pas un front pour stopper cette situation mortifère, pour tous, je le rappelle, hein, pour toute la population française, ben, on va droit à la catastrophe.
Oui, Evelyne.
Si je peux aussi compléter ce que dit Farid, avec qui je suis entièrement d'accord, c'est que il faut quand même rappeler, moi je l'ai lu dans le Canard enchaîné d'aujourd'hui, la commission de Bruxelles a rendu public un bilan provisoire de l'engagement solennel, hein, où on devait accueillir 100 000 réfugiés arrivés sur les côtes grecques et italiennes. Et donc, sur les 100 000 personnes annoncées, seules 13 500 ont été effectivement transférées de Grèce ou d'Italie dans un autre pays de l'Union européenne. Quant à la France, elle s'était engagée, vous le savez, c'était un chiffre déjà pas très énorme, à accueillir 19 700 réfugiés. Elle en a relocalisé, selon l'expression officielle, tenez-vous bien, au 28 février, 2758 personnes, 14% de son engagement déjà minable. Et là où je vais aussi aller dans le sens de Farid, les réfugiés qu'on laisse dormir dehors comme des chiens, moi j'ai hébergé cet été une maman avec 4 enfants dont la fille de sa sœur morte en route qui avait fui l'Érythrée parce que chrétienne menacée de mort et de torture, qui dormait dehors à Jaurès et dont... Ben, l'asile ne s'était pas occupé. Un ami a réussi à lui obtenir l'asile au bout de 4 mois de démarche, ce qui est déjà exceptionnel. Mais les Roms, par exemple, et ces gens qu'on laisse dormir dehors, à qui la police se fait un plaisir de subtiliser en plein hiver quand ils gèlent leur sac de couchage, leurs vêtements, leurs affaires, elle a que ça à faire, notre police nationale qui doit respecter les lois. Eh bien, prenons le cas des Roms. Pratiquement toutes les autorités publiques en France, des préfets aux maires, aux départements, sauf quelques exceptions, notamment là où je suis, moi, dans le Val-de-Marne, ça se passe mieux, mais à peu près toutes les autorités publiques se font un plaisir de violer la loi. Il y a des lois, comme le rappelait Farid, qui doivent assurer en principe la France, pays des droits de l'homme. Bon, je veux bien. Mais enfin, on a des lois, des déclarations universelles qu'on a signées et qu'on viole tous les jours. C'est inadmissible.
Voilà, et puis quand on laisse des gamins, on a beaucoup parlé, donc notamment ces dernières semaines, d'un jeune qui s'appelle Denko Sissoko, à Chalon-sur-Marne, ou à Chalon-en-Champagne, et qui a sauté du 8e... Enfin, qui est passé par la fenêtre du 8e étage au moment où la police arrivait. Je veux dire, un môme qui avait 16 ans. Quand on voit donc ça... C'est ces histoires de tests osseux qui sont où on va une autre histoire de tests osseux enfin, qui devrait rester dans les annales. Alors quand je dis ça, c'est pas des histoires isolées, c'est des choses qui sont tout à fait presque systématiques. Hein. On fait passer des tests osseux aux jeunes alors que donc ces tests osseux n'étaient pas légalisés, ont été légalisés l'an passé, mais devraient être faits en absolument dernier recours. Après un entretien d'évaluation, donc normalement ça devrait être les papiers, les actes d'état civil des gamins et leurs papiers d'identité qui devraient faire foi, qu'on remet systématiquement en question. Et donc le cas le plus, là encore une fois, qui aurait été rigolo si ça avait pas été dramatique, hein, c'était un jeune à Lyon, et donc un poignet disait 16 ans, un poignet 17 ans et demi. Donc il était trop jeune, donc on a trouvé un os, hein, c'était à l'omoplate, qui disait 36 ans. Donc minorité exclue, le gamin s'est fait 7 mois de tôle, donc il est sorti de tôle, il était majeur, il avait, je crois, enfin de tête, hein, j'ai pas pris mes notes avec moi, mais quelque chose comme 200 000 euros d'amende à payer, notamment pour rembourser ses frais de prise en charge par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance du Rhône. Et devait retourner, je crois, il me semble que ce jeune était tchadien, mais je le dis sous... Bon, et finalement, donc, il avait 17 ans, ce que disaient ses papiers. Bon, 17 ans et demi, un test osseux, comme ça, on garde une marge de 18 mois, mais ça peut être beaucoup plus. Donc, il était quand même dans les clous. Et puis, donc, il a pris 36 ans. Après, il a rajeuni. Hein, quelques mois après, il avait de nouveau ses 18 ans. Et voilà, quoi.
Non, mais c'est vrai que c'est d'un cynisme redoutable. Parce que, après que la France ait bombardé souvent les pays d'où viennent ces réfugiés, quand ils arrivent à traverser la mer, quand l'Europe ne les laisse pas mourir en mer, ils arrivent quand même ici. Evelyne le rappelait tout à l'heure, effectivement, la police, avec une espèce de sadisme, s'amuse, mais comme pour les Roms, où les évacuations en plein hiver des bidonvilles. Là, c'est pareil, on enlève les tentes, etc. Et c'est toute cette maltraitance au détriment des chartes, au détriment des textes, au détriment du droit. On voit bien. Faut le dire, faut mettre des mots, parce que ça donne la mesure dans laquelle les glissements se sont opérés. Et aujourd'hui, effectivement, on est aux portes de quelque chose qui va être dramatique, encore une fois, pour tout le monde. Parce que le pendant de ces politiques, effectivement, c'est des régressions sociales pour tous.
Je ne sais pas si je peux abonder aussi pour dire une chose, c'est que moi, je suis née en 40, donc j'ai grandi sous l'occupation dans une famille auvergnate. Mon père était prisonnier en Allemagne, et ma famille maternelle, grand-mère, tout ça, ont caché des Juifs. Beaucoup d'ailleurs, parce qu'on avait une grande maison dans la campagne. Et je trouve, toute proportion gardée, j'étais petite, mais je m'en rappelle très bien cette période. J'ai grandi avec ces amis juifs qui ont été sauvés, parce que quand les gendarmes venaient fouiller chez nous, mon oncle ayant été gendarme, ayant démissionné, peut-être c'est pour ça, on était prévenus. Ou en tout cas, il y avait un gendarme qui désobéissait, qui nous prévenait, sinon je serais morte, ces juifs-là seraient morts, mes parents seraient morts, etc. Ben, il y a beaucoup de choses qui me rappellent cette période. Moi, ça me fait froid dans le dos, ça me fait très peur. Parce que, effectivement, chaque fois qu'on a le capitalisme maintenant se sent débridé, il n'y a même plus l'alternative soviétique, il est tranquille, il possède la planète entière, il a des États à sa botte. Et face à ça, nous voyons des gouvernements successifs de droite, de gauche, enfin, ils s'appellent socialistes, paraît-il. De quoi faire sortir Jaurès de sa tombe, qui font ce qu'on fait dans l'histoire, les sociodémocrates qui ont toujours amené, pratiquement souvent, ils ont fait le lit du fascisme. Et moi, je dis que nous sommes très nombreux à en avoir conscience, très nombreux à nous battre. Il ne faut pas oublier que sous l'occupation, au départ, les résistants, ils n'étaient pas très nombreux. Hein. C'est pas très nombreux. En 1945, tout le monde se disait résistant. Eh bien, on vit une période très dangereuse pour nous tous. Moi, j'ai un fils qui s'appelle Karim, il en est sorti, il a 35 ans, mais là, tous les jours, je vois des policiers, des contrôleurs qui sont à dizaines, vingtaines, harceler des jeunes qui, comme par hasard, sont tous des jeunes de banlieue. Je vais vers eux, je leur dis, pourquoi vous ne me contrôlez pas? Parce que je suis blanche. Bah écoutez, contrôlez tout le monde ou personne. Ça suffit le contrôle aux faciès. Monsieur Hollande, dans ses nombreuses promesses dont il n'a tenu aucune, avait dit qu'il allait faire le récépissé. Il y a des villes comme Fontenay-sous-Bois qui proposent d'être ville-test pour mettre en œuvre dès maintenant le récépissé. Le contrôle aux faciès, c'est le début. C'est le début. Après, s'ils sont quatre policiers, comme ils savent au-dessus des lois, bon, ils s'amusent, ils mettent une matraque, ils déchirent l'intérieur d'un jeune homme. Ils n'ont pas été convoqués. Hein. Ceux qui ont étouffé Adama, je veux dire, en juillet dernier, et qui l'ont reconnu dans un camion de gendarmerie, ils ne sont pas encore passés devant un juge. Qu'est-ce que c'est que cette police? Pas toute, mais comment supporte-t-on qu'une fraction de la police, pendant 7 mois, après un meurtre reconnu, ne soit pas passée devant un juge? Comment supporte-t-on que des policiers fassent une manifestation interdite et arrachent une loi qui leur permet, au nom de la sécurité publique, de tirer des balles réelles après 2 sommations. Mais nous sommes à l'aube du fascisme. Nous sommes en train de rentrer dedans. Alors oui, y a un seul mot, résistance.
Résistance. Et donc, il y avait